Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Le soir, lorsqu'il retrouve sa femme au salon et qu'elle lui demande « Tu vas bien? T'as passé une bonne journée ?»«
Oui, très bien, »
dit-il gêné. Elle lui dit « Je suis allé avec monsieur de Jean-Jus chez les tapissiers pour refaire les chaises du salon. Quel homme est-ce qui ?»
Il se dit « C'est gentil. Ce Jean-Jules doit être un homosexuel pour que les femmes se sentent si bien avec lui. Ce vieux beau. »
Une semaine plus tard, c'est elle qui lui téléphone. Pour l'inviter à déjeuner. Il accepte parce qu'il la trouve la jeune fille belle et qu'elle est. Peut-être, sûrement, une de ses dernières conquêtes. Après, tant pis, le temps passera vite. Il est heureux d'être près d'elle, surtout qu'en plus, elle est très belle, elle a la conversation, est très intelligente, exquise, délicieuse. Après plusieurs rendez-vous, il se demande s'il n'est pas amoureux. Au restaurant avec elle, il se dit « Amoureux, ce serait terrible !» Flirter, un peu, oui, mais amoureux, c'est trop. Je suis marié, une femme. un fils et une situation. Non, je ne peux pas me permettre d'être amoureux. Et puis, même telle vraiment.
Vous avez du souci? Elle lui dit, comment? Elle lui dit, nous connaissons déjà depuis un certain temps, et je vois que vous n'êtes pas dans votre assiette.
Il lui dit, je crois, ce que nous ferions mieux, c'est de ne plus nous revoir.
Elle le regarde surprise. Et pourquoi donc? Mon Dieu!
Parce que cela peut être dangereux. Vous êtes une femme si délicieuse, charmante, belle. Et je ne suis qu'un homme. Je risque de devenir amoureux de vous.
C'est ça que vous appelez dangereux?
Oui, parce que j'ai ma vie. Je suis marié et tiens à rester fidèle. Je ne serai pas bien vis-à-vis de ma femme.
Elle lui dit, et votre femme, vous est-elle toujours restée fidèle?
Elle se lève furieuse. Elle lui dit, restez.
Non, puisque vous vous sacrifiez à votre femme. Mais réfléchissez, vous est-elle restée toujours fidèle? Sinon, pourquoi restez-vous fidèle?
Il lui dit, vous savez quelque chose?
Il le regarde bien et lui dit, débrouillez-vous.
Il est furieux contre lui-même de l'avoir vexé. Le lendemain, il lui téléphone. Allô?
Allô?
Isabelle, c'est moi. Nous pouvons nous voir? Elle lui dit.
Non. Non, à moi. Non, je ne peux pas. Moi, je vous aime.
Il lui dit.
À moins que vous m'aimiez.
Il lui dit. Je ne peux pas vous aimer. J'ai ma femme.
Eh bien, adieu.
Elle raccroche. Il est furieux. Puis sa fureur lui fait repenser à ce qu'elle lui a dit sur sa femme. Et si elle me trompait. Il y pense constamment. Il y pense sans arrêt. Il n'en pouvant plus, il va en plein après-midi voir ce qu'elle fait. Il entre chez lui. Le domestique lui dit,
Madame est sortie au Galerie Lafayette. Il y a la semaine japonaise.
Bien, merci. Le lendemain, il se dit qu'elle a peut-être dit n'importe quoi au domestique. Elle a pu aller ailleurs. Il décide, c'est de l'attendre en cachette devant la maison et de la suivre. passe devant la maison en début de journée. La voit sortir. Elle marche à pied. Elle marche à pied. Ou prend un taxi. Il la suit. Elle fait les magasins seule. Des jours, elle est accompagnée par Monsieur de Janju.
Tiens, tiens, le vieux fou. Qui sait, les femmes adorent ce genre d'homme.
Avec Monsieur de Janju, elle fait les magasins, va au champ de course, ténerie, tennis, galerie. Elle semble bien s'amuser. Il termine toujours la journée dans un salon de thé. Il se dit comme deux vieilles tantes de province. Il suit sa femme plusieurs jours durant, et toujours avec ses enjus. Et elle rit. Et elle est bien sage. Le soir, lorsqu'il lui demande ce qu'elle a fait, elle lui dit la vérité. Il est heureux et se dit que sa femme est une brave femme. Il doit lui faire confiance. Comme elle, elle lui dit, elle doit lui faire confiance. Il se dit qu'il devrait avoir honte de la soupçonner. Se dit aussi que ce Janju est un très brave homme, que les PD sont bien dans leur genre. Ils distraient les femmes mariées en les empêchant d'être infidèles. Ils décident de ne plus espionner sa femme.
Heureusement qu'elle ne le savait pas, j'aurais eu l'air idiot.
Des jours passent. La vie reprend son rythme. Un matin, il reçoit une lettre. Il a ouvert et lit. On lui écrit que M. de Janju n'a pas été toujours été vieux et que 20 ans plus tôt, il déchire la lettre. Mais elle le trouble. Plutôt, c'était la naissance de son fils unique. Alors s'il n'est pas de lui, comment le savoir? Il y a 20 ans, c'est vieux ça. À cette époque-là, il travaillait beaucoup, sa femme aussi, mais... Si la lettre dit vrai, il va y avoir des preuves, peut-être une correspondance entre sa femme et Monsieur de Janju. Il décide d'aller fouiller dans le secrétaire de sa femme. Thank you. l'après-midi, il se cache vers la maison et attend qu'elle sorte. Une fois qu'elle est sortie, il va sonner au portail de la maison. Oui, c'est moi. Bien, monsieur. Le portail s'est ouvert, il entre. Le portail se referme automatiquement derrière lui. Longe l'allée, monte le perron et sonne à la porte de la maison. Il a ouvert le domestique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Il entre et monte à l'étage où se trouvent les chambres. Va à la chambre de sa femme. Il va au secrétaire, il l'ouvre. Il y a énormément de lettres, de cartes. Il s'assoit pour regarder son courrier. Il cherche les plus anciennes. Celles qui ont plus de 20 ans. Et 20 ans. Enfin, il arrive à trouver de très vieilles lettres. Il y a de vieilles lettres de lui qu'il lui a envoyées lorsqu'il était en voyage. Des lettres d'amis. Des gens de la famille. Mais rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Il cherche pendant 3 heures. Décide d'arrêter parce que c'est trop fatigant. Il en a marre. Il range bien le courrier pour qu'elle voie que rien n'a été touché. Pour qu'elle s'aperçoive de rien. Ferme le secrétaire et se lève. Sort de la chambre. Et décide de retourner à son bureau. qui n'a rien trouvé, mais que ça ne veut rien dire. Elle a peut-être déchiré les lettres. Faudra qu'ils savent où était Monsieur de Janju à cette époque. Mais comment le savoir? Il n'a jamais eu de travail fixe. C'est un homme qui n'a jamais rien fait. Il se dit que puisque Monsieur de Janju est un homme connu, il doit bien y avoir quelque chose. On doit parler de lui. Alors, il va aux archives du monde pour voir s'il n'y a pas un article sur lui qu'il mette sur la voie. Là, il ne trouve rien. Rentrant chez lui, durant le dîner, il regarde bien son fils pour voir s'il lui ressemble. Mais comment savoir? Il est encore jeune, si jeune. Et puis, il a de sa mère aussi, et plus que de lui. Sa mère, sa femme, lui demande « Qu'est-ce que tu as ?»«
Rien, juste un peu de fatigue. »
Soir, elle dit à son mari « Monsieur de Janju viendra nous dire au revoir. Il part pour Rome, comme toutes les années. Il va faire un séjour là-bas. Il viendra demain soir nous dire au revoir. Gilbert, tu y seras, j'espère. Il t'estime tellement. » Gilbert fait la grimace et lui dit « Je ne pense pas. J'ai à réviser. » Elle lui dit « Comme c'est dommage, il va beaucoup te regretter. Il va beaucoup le regretter. » Moi aussi, mère. Le lendemain soir, alors qu'ils sont au salon, on frappe à la porte. La mère dit « Entrez !» Entrez domestique. « Madame, c'est Monsieur de Janju. Faites-le entrer. » Ferme la porte et fait entrer Monsieur de Janju. La famille se lève. Monsieur de Janju va vers eux et dit « Monsieur, madame, je viens vous dire au revoir. Je pars pour un voyage de quelques jours pour Rome. » La mère lui dit « Venez vous asseoir, monsieur de Janju. » Et il s'assoit. Eux aussi. Le père demande « Vous voulez boire quelque chose ?»« Oui, merci, un bonbon. » Le père appuie sur la sonnette qui est sur la table. La mère demande « Qu'allez-vous faire à Rome ?»« Eh bien, je vais visiter des églises, voir des tombeaux et le Saint-Père. Comme toutes les années, il me reçoit. Nous faisons le point sur l'année écoulée. » frappé à la porte. La mère dit
« Entrez !»
Apparaît le domestique. Elle lui dit
« Du bonbon, s'il vous plaît. »
« Bien, madame. » Et il sort. Le mari demande
« Vous allez habiter à l'hôtel ?»«
Non. Les Conti me prêtent leur palais de Rome. »
Le père lui demande
« Le pape, croyez-vous que le pape a un pouvoir quelconque sur ce que s'il se passe dans le monde, peut-il faire entendre encore sa voix ?»
Monsieur Jean-Jules lui répond
« J'espère que oui, sa sainteté a tout de même évité, hérité de la couronne des empereurs romains, de la vraie couronne, pas celle qui a eu ceux qui se disaient du Saint-Empire. » En ce moment, il est inquiet d'une certaine puissance, disons, occulte. Mais c'est plus que ça, qui manipule beaucoup de choses. Cette chose où ce groupe d'hommes vient de je ne sais où et prennent de plus en plus de place et cherchent à s'emparer du monde, de ses richesses et des hommes. Cette sainteté était très, très inquiète. Surtout pour la fille aînée de l'Église, la France, parce qu'il paraît que ça viendrait de notre bon vieux pays. On frappe à la porte. La mère dit « Entrez !» Entre le domestique, avec les boissons. Il va les déposer sur la table basse qui est en face d'eux. Il les sert. Et les quitte. Le père dit, il y a tellement de sectes. C'est Jean-Dieu lui dit, c'est un peu plus grave que ça. C'est un peu plus qu'une secte. Il boit une gorgée en silence. Monsieur de Jean-Dieu demande, votre fils est absent? La mère lui dit, oui, il regrette de ne pas être là, mais il a révisé.
Oh, comme c'est dommage.
Maurice lui demande,
je me demande ce qu'un homme comme vous peut bien faire dans la vie. Vous avez vécu comme toujours comme ça?
Oui, toujours.
Et même lorsque vous étiez plus jeune?
Oui, toujours.
Il y a 20 ans, vous étiez où?
J'étais, ma foi, je crois à Lyon. Près des Hautes-Bords et beaucoup à Rome. Il y avait une grande crise à cette époque, l'affaire du Saint-Suaire et des décès de nombreux papes, le problème de l'ADN et de la biotechnique, une guerre franco-américaine. J'avais beaucoup à faire et mon ami monsieur de Hautes-Bords aussi. Il était pour ainsi dire l'ambassadeur de France pour le Vatican. C'était extrêmement dur. Vous voyez, je devais souvent passer mon temps entre Lyon, Rome, Paris. Toujours des valises à faire et à défaire.
Et à Paris, vous rencontriez des gens?
Juste les gens que je devais voir. Les jeunes tous, les présidents de la République, des religieux. J'avais à peine de voir mes amis, le temps de voir mes amis.
comme Charles. Je ne voyais pratiquement pas. Il y avait trop de choses à faire. La France vivait une espèce de guerre froide avec l'Amérique et même l'Église à cause du sanctuaire. Les différents papes sont venus, ont fait plusieurs voyages en France pour arranger les choses. C'était une période extrêmement trouble, très trouble.
Demi-heure plus tard, il est parti. Il a pris congé. Maurice se dit qu'il a peut-être pu être l'amant de sa femme. Le lendemain, M. de Janjou est arrivé à Rome en fin de matinée. Il a pris l'avion. À peine arrivé, il est allé se restaurer dans un restaurant de la ville. Puis, il est allé déposer les valises au palais Conti. Il est allé au Vatican voir le pape. Demain, il passera une journée de congé pour visiter ses églises.
Le reçoit dans ses appartements privés. C'est son secrétaire qui le mène. Des dalles de couloir avec des gardes suisses à chaque porte. On a insonorisé le palais parce que le son des cloches fatiguait sa sainteté. Arrivé à une porte, il frappe.
Entrez.
Il entre. Monsieur, entrez. Et ferme la porte. Monsieur de Janjou entre dans le grand salon pontifical du Saint-Père qui donne grâce à une porte-fenêtre un petit jardin. Le salon est Louis XIV. Le pape est un grand homme, maigre, cheveux blancs, yeux bleus profonds. Il est habillé d'une sa jupe blanche. Il se lève à l'arrivée de M. de Janjou, va vers lui.
Monsieur de Janjou, je vous salue bien. La sainteté,
M. de Janjou lui baise l'anneau pontifical. Le pape lui dit,
allons nous asseoir.
Il le mène dans un coin du salon. Il se trouve des chaises tapissées devant une table basse.
Une fois qu'ils sont assis, sa sainteté, Luc III, lui demande.
Où en sont les affaires? Monsieur Jean-Jules lui dit. Ça va mal, de plus en plus mal, plus de pauvres.
Le pape lui dit. Oui, mais l'affaire.
J'ai fait la connaissance d'une famille étrange. J'ai bien peur que cette famille soit entourée de gens que vous savez. Il faudrait les aider. Je crains que le fils de la maison...
Le pape lui dit.
Oui, il faut faire quelque chose. Démanteler ce groupe. Mais comment? Ils sont infiltrés de partout. Au gouvernement, dans la police, l'armée, la santé, la recherche, et j'en passe. Il faudrait leur trouver une faiblesse. Si l'on trouvait l'élu, comme ils disent, et qu'après on le garde, il ne pourrait plus rien faire.
Eux, c'est le plus d'informations sur l'élu. Notre but, c'est le prendre pour les paralyser. Lorsque vous retournerez en France, vous occuperez de ça. Bien, votre sainteté.
Puis, ils ont parlé de choses et d'autres. Après sa visite chez le pape, M. de Jean-Jules est allé visiter quelques églises et des amis romains.
Quelle est cette odeur infecte? On la sent partout dans la ville.
Son séjour se passe bien. Les jours passent.
Poncet est dans son salon. Elle fait venir sa fille. On a frappé à la porte.
Entrez!
Entre Nathalie.
Vous m'avez demandé, mère?
Oui, ma fille. Venez.
Elle s'approche de sa mère, qui est toujours assise dans un fauteuil près de la fenêtre.
Je vous écoute, mère.
La mère lui dit.
Tu fréquentes toujours ce Gilbert.
Oui, mère, et vous le savez.
J'avais dit d'arrêter cette liaison.
Nathalie lui dit.
Nous ne sommes pas amants, mère.
Ne manquerait plus que ça.
Mais j'avais dit de ne plus voir cette personne.
Pourquoi, mère?
Parce que c'est une famille détestable. Des maçons. Et qui dégrade en plus Paris.
C'est à cause de ça?
ne vous faites pas de soucis. Le fils ne fera pas le métier que le père. » À nos épaules, il lui dit, « Il fera pire. Et ce sera plus dangereux pour tout le monde. » Mais non, qu'est-ce que vous racontez, la mère? Il veut être écrivain et professeur. La mère lui dit, c'est ce qu'il croit. Moi, je te dis qu'il fera pire que son père. Nathalie lui dit, il ne veut pas être maçon, ni remplacer son père. Et puis, d'ailleurs, il n'est plus vraiment un maçon, lui, puisqu'il est PDG d'une des plus grandes entreprises de France. C'est l'une des premières fortunes de France et la troisième, je crois, du monde. Si c'est pas un bon parti, la mère hausse ses épaules et lui dit,
mais ce n'est pas la fortune, mais la moralité.
Mais c'est des gens qui n'ont rien à se reprocher, la mère lui dit,
comme certaines familles, au début, puis après. Après, nous verrons.
Mais nous ne pouvons pas les juger pour des fautes qu'ils n'ont pas encore commises, même si vous croyez qu'ils vont les commettre. Et puis Gilbert n'est pas responsable des fautes de sa famille, si elle en a commises. On ne punit pas le fils à la place du père. J'ai décidé de continuer à voir Gilbert. La mère lui dit,
à tes risques et périls.
Nathalie hausse ses épaules et sort de la pièce.
Un jour, Maurice sort du siège, il est 14h, pour aller manger un morceau dans un restaurant pas bien loin. Comme c'est à côté, il y va à pied. Passe devant un homme, grand, maigre, cheveux gris, tête ridée, habillé d'un vieux costume gris, râpé et sale. L'homme lui dit,
« N'avez pas dit quelque chose, monsieur ?»
L'homme lui montre son écran. Maurice le regarde. Sort de sa poche sa carte. Et où il va la mettre sur l'écran, il voit le nom du SDF. Morel Pierre. Il est surpris.
Vous êtes Morel Pierre?
Oui, monsieur.
Le Morel Pierre, maçon?
Oui, monsieur. J'ai travaillé avec Franc Blanc à ses débuts.
Maurice lui dit.
Mon vieux, je te reconnais maintenant.
Morel lui dit,
toi, qu'est-ce que t'es bien mis? Tu as réussi, je t'aurais pas reconnu.
Maurice lui dit,
qu'est-ce que tu fous?
Rien, tu vois, la vie m'a pas gâté, moi.
Écoute, si tu veux qu'on parle tranquille, je vais au restaurant, je t'invite.
Morel lui dit,
habillé comme je suis,
Maurice lui dit,
aucune importance, t'es mon invité, allez, viens.
Morel a les larmes aux yeux.
Au restaurant, moi.
Et il suit Maurice, il le met dans un grand restaurant à plusieurs étages, décoré 19e. Il est 14h. La foule est partie. Il reste encore quelques consommateurs. Le maître d'hôtel s'approche d'eux.
Bonjour, monsieur Franc Blanc.
Bonjour. Aujourd'hui, il me faut une table pour deux personnes.
Bien, monsieur. Veuillez me suivre.
Et ils suivent le maître d'hôtel qui les mène à une table. Une fois assis, il leur présente la carte.
Maurice dit, exceptionnellement, comme j'ai un ami, je prendrai un vrai repas.
Bien, monsieur.
Et Maurice donne la commande. Demande à chaque fois si ça va à son ami qui lui dit
« Comme toi, c'est très bien. »
Maurice a commandé des choses nourrissantes mais qui se digèrent facilement. Parce que comme son ami ne mange pas tous les jours, à sa faim, il ne faut pas que ça le rende malade. Une personne qui a l'estomac rétréci par malnutrition doit se nourrir petit à petit. Pour le repas, il commande un petit vin, pas trop fort. Tout en mangeant, Maurice lui demande
« Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»
Morel lui dit
« La dernière fois que je t'ai quitté, il y a de cela plus de 20 ans déjà, le temps passe vite. »
Tu m'avais renvoyé parce que tu n'avais plus de travail.
J'en ai profité pour prendre un peu de vacances. Je suis parti 6 mois en Italie, puis je suis revenu.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morvetti.